Salut les cœurs doux, c'est Cal. Vous écoutez la deuxième partie de l'émission du 16 janvier, Nos santé mentale en lutte. Souvenez-vous, avec mon invité Alix, on s'était mis à nu pour vos douces oreilles en vous partageant nos parcours de transidentité. Et puis, on s'était habillé avec les mots et le courage de Paul B. Preciado de dire devant des vieux mecs en blouse blanche « Je suis un monstre qui vous parle ». Et Tal Madesta, dans la fin des monstres, de nous rappeler qu'on peut s'affranchir du regard dominant et de ses normes à la con. Et maintenant, on va continuer à s'écouter, se culturer et se réconforter avec de la culture queer et woke à souhait.
J'avais envie qu'on s'appuie aussi sur les mots des autres, des autoristes qui nous racontent nos réalités parfois aussi et qui donnent du courage d'exister. Donc moi par exemple, mon coming out non binaire, je l'ai fait avec les mots d'une autre, les mots d'Angie Triolo. Dans son recueil de poésie Acmé, auprès de ma mère, je lui ai donné ce texte, je lui ai tendu et je lui ai dit « voilà, c'est moi, lis ». Parce que des fois, bah justement, c'est difficile en fait de sortir les mots, ça nécessite un courage immense, ça nécessite aussi de se poser, de se détendre, et c'est vraiment pas évident quand ce sont des sujets aussi douloureux pour nous. Et donc, Angie Triolo, dans ce texte, elle y parlait du malaise social de la non-binarité, et du fait d'être soi-même, hein, tout simplement, comme s'il y avait un troisième genre qui existait, hein, une voix du milieu. Et puis, elle parlait aussi des bienfaits du communautarisme, parce que des fois, en effet, être dans la commu, être dans la communauté, ne pas avoir à se justifier, ne pas avoir peur des violences, en tout cas de certaines violences qu'on ne subira donc pas, par exemple qu'on nous demande notre prénom, qu'on nous mégenre pas, donc voilà, qu'on nous appelle pas par notre dead name, notre ancien nom, etc. quand on a transitionné et changé de nom. En tout cas, voilà, ça fait du bien parfois juste de pouvoir lâcher prise et se sentir dans un espace sécurisant. Et alors, dans cette sélection concoctée par la bibliothèque queer féministe Les Lunes, eh bien, il y avait notamment une BD, un roman graphique incroyable, vraiment, qui s'appelle Girlfriends. Et c'est le genre de... Franchement, moi, je lis pas trop de romans graphiques de base, mais c'est le genre d'ouvrage, plus généralement, qui peut se lire à partir de l'adolescence très facilement et qui est vraiment... merveilleusement bien écrit. Ça parle de la peur du changement aussi quand on est au sein d'un couple. Alors là, du coup, c'est le couple entre deux personnes, le couple entre Sarah et Diana, qui du coup va faire face à la transition d'une de ces deux personnes et qui va justement se questionner sur l'impact que ça va avoir aussi sur leur relation, sur peut-être aussi une potentielle séparation, si aussi ça change leur orientation sexuelle, puisque du coup elles croyaient être hétéro et elles deviennent lesbiennes. Et donc c'est hyper intéressant parce que moi, clairement, une de mes premières représentations sympa, pas une représentation horrible que j'ai eue justement de la transidentité, c'était dans les Chroniques de San Francisco. Tu vois très bien, Alix, de quoi je parle. C'est donc cette série qui a été reprise en 2019, donc la nouvelle version qui s'appelle Tales of the City. Et je parle de cette histoire d'amour entre Jake et Margot, où Jake justement transitionne au cours de leur relation. Et donc Margot déjà n'est plus très à l'aise avec l'idée de passer pour une meuf hétéro, elle n'est pas trop d'accord avec ça. Et puis surtout c'est assez triste parce que Jake va aussi, du coup ils vont se séparer pour X raisons, et il va aussi avoir tout un chemin à faire vis-à-vis de son orientation sexuelle qui elle aussi du coup évolue avec son identité de genre. Et c'est vrai que moi je me rappelle avoir été un peu trauma de ce couple trop mignon qui se sépare avec cette transition, et puis voilà, et donc ça m'a rappelé aussi des maladresses que j'ai pu avoir vis-à-vis de mon amour, nourri par mes peurs, mes insécurités, la peur de l'abandon, etc. Et les œuvres globalement d'Eliot Page m'ont toutes grave inspirée. Et est-ce que justement toi, Alix, ça te parle, ces insécurités, la peur de l'abandon vis-à-vis des transformations que les autres ont pu te faire ressentir, la peur du changement, etc.
Tu veux dire par rapport à moi?
Ouais.
Oui, c'est arrivé. Et c'est des choses que j'ai vraiment pas comprises, en fait, parce que... Enfin, je sais pas, en fait, je pense que je comprends mieux le fait que, bah oui, ça puisse être un très gros bouleversement et que ça puisse vraiment, ça dépend des personnes, hein, encore une fois, être vraiment quelque chose de tellement, voilà, bouleversant dans la vie que, d'un coup, voilà, ça peut te donner envie, soit de sortir, j'en sais rien, j'imagine, parce que c'est pas mon cas, mais bon, je peux imaginer ce qui se passe dans la série, mais c'est différent, parce que pour moi, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui font une transition, ok, mais qui, dans leur tête, ça n'a rien à voir avec comment elles évoluent et comment elles se sentent dans leur relation et dans leur vie. Donc voilà, pour moi, c'est un truc qui est quand même très, très bizarre, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je me sens pas concernée. Et ce qui me choque plus que ça, à la limite, parce que ça, je peux comprendre à la limite les interrogations, c'est le côté devenir hétéro, devenir lesbienne, je sais pas quoi. Bon. Étant donné que moi, j'ai toujours été dans un truc très fluide où juste je rencontre un autre être humain, je suis un être humain, c'est super, et on se rencontre. Bon, globalement, ce que la personne a entre les jambes et plus comment elle se présente au monde ou je ne sais quoi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux dire, moi, je vais m'intéresser à la personne dans sa globalité, donc...
Team pansexualité.
Voilà, globalement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très bizarre, qu'on soit amoureuse d'une personne, qu'elle se retrouve à, je dis vraiment de manière hyper binaire, avant, elle avait des seins, des formes, je sais pas quoi, et là, elle en a plus, et elle est poilue, elle a de la barbe et une voix grave, enfin, c'est la même personne, en fait, donc... Mais je peux comprendre.
Je te conseille Girlfriends parce que c'est justement ce qui se passe. Je vous fais un petit spoiler, mais parce que c'est au tout début du livre, justement, son amoureuse va lui dire « Mais Eureka, j'ai une révélation, je suis pansexuelle, j'aime les humains. » Bon, elle dit bisexuelle, mais bon, voilà. On utilise les termes qui nous parlent sur le moment. Et donc, elles vont rester ensemble parce que l'amour, eh bien, n'a pas changé, même si l'apparence a changé. Et c'est vrai que moi, du coup, les chroniques de San Francisco, ça m'avait aussi parlé sur, c'était assez inspirant sur les parcours aussi de déconstruction vis-à-vis de nos socialisations, de nos éducations, et sur comment après on reconstruit des modèles aussi, des modèles de société aussi, de mini-société, puisque là c'est l'utopie du 28 Barbary Lane à San Francisco, mais ça aurait pu être complètement disposé ailleurs, et c'est aussi l'utopie de faire famille autrement. Bon, ça on en parlera dans une autre émission, mais voilà, c'est l'idée aussi de faire lien autrement, et à ce sujet, je voulais aussi qu'on vous dise qu'on ne peut pas aborder tous les sujets en même temps qui sont croisés avec la transidentité. Donc dans une prochaine émission, il y aura aussi du coup le croisement entre transidentité et personnes racisées qui sera le sujet d'une prochaine émission, puisque la Bibi m'a déjà concocté une sélection d'ouvrages sur le sujet, notamment La belle histoire d'amour queer, le roman Felix Ever After de Cassen Callender et The Black Flamingo de Dean Atta, voilà, qui est vraiment très 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 beau. Donc je vous les conseille en lecture cet été. Ils sont à la librairie Les Lunes, hein, autogérée. Vous pouvez les retrouver souvent et le samedi à l'année à la cantine populaire. Et donc tout ça, c'est en lien avec les fameuses couches de lutte, hein, dont on parlait, la fameuse intersectionnalité. Hein, je vois qu'en face de toi, tu lisais tout à l'heure un ouvrage sur le privilège blanc. Donc, tu es partisan de cette idée de remettre de la conscience, pas de la culpabilité, mais de sentir cette responsabilité. Toi, en tant que personne qui a un passing blanc, puisque tu n'es pas vraiment blanc.
Oui, ben c'est pareil. Pour moi, c'est une question globale d'écouter l'autre et d'écouter ses problématiques et d'essayer de soutenir entre minorités. Enfin, si ça a toujours été une évidence. Après, on apprend des choses tous les jours et c'est pour ça aussi que j'ai des livres sur le mécanisme du privilège blanc et que, comme toute personne blanche, paraissant blanche, j'ai évidemment dû dire des choses qui étaient du racisme ordinaire ou autre sans m'en rendre compte. Enfin voilà, personne n'est parfait, il faut aussi... on n'est pas déconstruit, on est en déconstruction permanente, on va dire.
En progrès.
Ou en reconstruction, j'en sais rien, mais bon, un peu des deux. Et donc ouais, pour moi, ça a toujours été totalement normal et je suis régulièrement choquée par les militants, parce qu'on parle pas beaucoup de lutte finalement, enfin de lutte au sens politique, les militants de gauche qui sont complètement à l'ouest, bah, en principe tous les leaders blancs, mâles, cis, hétérosexuels notamment, qui sont complètement à l'ouest sur les questions féministes, même des fois, on parle même pas de queer, racisme, validisme, hein, on parle même juste des questions féminisme, ou clairement, même au sein de la gauche, il y a des femmes qui s'en prennent plein la gueule, ce que je trouve extrêmement choquant. Donc oui, pour moi, c'est une évidence, en fait, il faut rassembler les luttes, parce qu'on a quand même un même ennemi globalement, c'est le capitalisme. Et le patriarcat porté par les hommes riches, voilà, blancs.
Et c'est de ça dont on parle quand on parle de responsabilité, c'est que ce serait bien que ce soit pas toujours nous, les personnes aussi avec une charge émotionnelle déjà intense et une santé mentale potentiellement fragilisée par tout ça, et bien de porter cette responsabilité. Donc quand on est un mec cis blanc, hétéro et riche aussi, et bien portons les responsabilités et soyons alliés de toutes ces luttes, ce serait sympathique. Mais bon, pour revenir sur des choses plus douces, plus liées à l'enfance, et bien la Biblie, les lunes vous conseillent aussi l'album Jeunesse danois, qui est vraiment poétique à souhait, métaphorique, très touchant sur l'intelligence de l'enfance et la transidentité subtilement amenée. Cet album Jeunesse s'appelle Une belle pierre. Il a été écrit par Anne-Sophie Allermann et Anna-Margret Kjærgaard, désolée, je ne parle pas danois. Et voilà, donc c'est un magnifique témoignage sur le vécu justement de l'enfance et cette douce période parfois de fluidité et de liberté de juste devenir soi. Et puis voilà, hein, cet enfermement qui arrive plus tard sur des attentes qui sont projetées sur nous. Et donc on va faire une petite pause musicale en s'écoutant Perfectly Trans de Ezra Michel.
I was born in a body with a gender not my own. Expectations put on me before I could even crawl. They tried to keep me down, but I had other plans. Come to find out I'm just perfectly trans. I'm perfectly trans.
I love being trans.
When I say perfect, I mean there's nothing wrong with me. My body is so beautiful. Even when I feel ugly, community stands so strong. We're so resilient, no two of us alike. And that's what makes us brilliant.
I love being trans. I love being trans.
They tried to keep us down, but we had other plans. Come to find out we're just.
Et voilà, c'était Perfectly Trans de Ezra Michel. Je vous conseille toute la discographie d'Ezra Michel, notamment Pussy Boy, qui est assez réjouissant aussi. Et un autre ouvrage vraiment qui m'a bouleversée, c'est Devenir. C'est un récit fait par une autrice et une illustratrice avec des illustrations sublimes du 9e art par donc l'artiste trans Johanna Fulivelli sur... plein de choses, c'est très très poétique, c'est très historique aussi. Elle nous parle notamment des mauvaises herbes, celles dont on ne veut pas mais qui sont si badass, donc les femmes trans, et puis la destruction des mythes transphobes et sexistes que nous avons en héritage. Et donc ça m'a vraiment... vraiment beaucoup touchée parce qu'elle parle de qu'est-ce que c'est qu'être femme finalement. Est-ce qu'on ne naît pas femme, on le devient, comme disait l'autre. Elle parle aussi de l'instabilité dans laquelle nous plonge cette société et de se retrouver parfois dans des bulles de sécurité adelphiques. Hein, pour rappel, on a la fraternité, la sororité et puis les adelphes, c'est du coup la version non-binaire des frères et des sœurs. Donc la version non genrée, on aime le neutre. Et donc voilà, elle nous parle aussi parfois de l'envie qu'on peut aussi ressentir, hein, rappelons qu'on est en Ardèche, de vivre isolé et préservé de la violence de cette société, et l'envie de s'inventer un nouveau monde où on puisse exister et vivre librement. Et alors ça m'a rappelé bien sûr à des imaginaires fantastiques, résolument queer de Wendy Delorme, que j'aime de tout mon cœur, notamment l'ouvrage très connu « Viendra le temps du feu », mais tous les autres aussi. Hein, celle qui un jour, j'ai eu le privilège de l'interviewer, et elle m'a dit « Je vais écrire sur le désir et les minorités politiques jusqu'à ma mort ». Donc voilà, elle fait partie de ces gens-là qui nous portent et nous transportent. Et puis, un ouvrage que l'on m'a beaucoup conseillé, que j'ai beaucoup parcouru ces derniers temps, qui est plus dur que ce que je ne croyais, puisque finalement, il témoigne d'un parcours de vie avec toutes ces violences et toutes ces difficultés à vivre en tant que personne transgenre, c'est « Appelez-moi Nathan ». Et ça parle justement du courage et du chemin pour être soi-même, de l'enfance, ce fameux moment de la puberté où on se dit « merde, là, ça commence à poser problème, avant ça allait », jusqu'à l'âge adulte. Voilà, c'est l'histoire de la transition d'un ado, du cheminement aussi de l'entourage, de ses amis, de sa famille, sur voilà, leur ignorance, leur peur, la culpabilité, et puis l'incompréhension et le deuil. Puisque souvent l'entourage se sent en deuil, notamment familial. C'est quelque chose qui peut être vraiment extrêmement difficile à vivre parce qu'on est encore en vie, même en vie parfois pour la première fois, vraiment. Et on n'est plus juste en survie. Et donc voilà, ça nous parle de la violence de la transphobie et puis la joie aussi, l'euphorie d'être soi et de trouver les siens. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je pense qu'il te parlerait aussi à toi, Alix. Hein, la violence de sortir de l'enfance, d'être projeté dans un corps genré, sexualisé, voilà, et d'essayer de faire respecter du dehors ce qu'on est du dedans. Et alors, ça nous renvoie aussi à cette question aussi du changement d'apparence. Est-ce que on a besoin? Est-ce qu'on souhaite? Est-ce que c'est, voilà, c'est réjouissant des fois de changer d'apparence? Est-ce que c'est pas aussi une libération à des moments comme ça de coming out, un nouveau départ, une réécriture de soi pour coller au dedans et être visible? Et moi, je sais que j'en ai eu besoin pour me sentir visible, pour remettre aussi parfois des étiquettes et des mots pour mieux s'en débarrasser. Et puis me sentir moins seule, faire partie aussi d'une communauté de laquelle je pouvais parfois me sentir un peu rejetée. Et parfois, je me retrouve confrontée à nouveau à la violence de la société quand j'ai envie d'être sexy, mais pas sexualisée en fait. Et il y a des vêtements que je ne pourrais ou voudrais plus jamais porter à cause de l'image que ça me renvoie et du regard des autres. Sinon, j'ai peur qu'on me refoute au placard immédiatement. Et donc, je dois assurer cette face sociale avec finalement des déguisements, en fait. Là où le monde extérieur a tendance à croire qu'on se déguise quand on est nous-mêmes, mais bien en fait, non, on se déguise quand on est quand on ressemble aux autres parfois. Et c'est usant de pas pouvoir juste être soi dans sa diversité, dans sa fluidité. Toi, Alix, tu me disais que t'as plutôt vécu l'inverse, plus que de vouloir te rendre visible, t'as plus voulu te cacher, disparaître, ne pas être visible pour justement vivre tranquillement. Et tu m'as d'ailleurs parlé d'une page Instagram. Il y en a tellement comme Tamos le Thermos qui parlait de la douce période estivale où la chaleur nous pousse à nous dévêtir et où la transidentité est d'autant plus visible. Et donc on peut plus se cacher, on peut plus camoufler ses formes, on est forcé de se outer et on se sent justement parfois encore plus mal. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de cet aspect de l'apparence et de la cachette?
Oui, j'ai pas grand chose à rajouter, mais c'est vrai que voilà, ça reste une angoisse au quotidien en fait. Ça fait des années que je vais plus à la piscine. C'est même pas que je me pose la question si j'aime vraiment bien la piscine. J'ai fait 3 ans de natation en club, hein, c'est quand j'étais ado. C'est juste, c'est plus possible. J'ai plus envie de m'exposer à ça. J'en ai pas l'énergie, pas la force. Donc je vais dans des petits coins de rivière où il y a personne et voilà. En fait, on trouve des solutions, mais je sais que même en faisant une torsoplastie, ça va pas changer grand-chose, puisque je serai encore une fois encore plus visible. Mais après, moi, ça me dérange pas d'être en t-shirt absolument tout le temps. Ça, si ça peut améliorer le passing, il n'y a pas de problème. Mais voilà, bon, c'est vraiment un handicap au quotidien, cette histoire d'apparence. Surtout quand on est dans des corps où on peut pas se déguiser facilement, en fait, hein. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se déguiser plus facilement que les autres, encore une fois. Quand je dis déguiser, c'est dans le mauvais sens pour les personnes, hein, voilà.
Je comprends tout à fait. Mais oui, donc on est encore sur ces injonctions aussi à rentrer dans un moule. Et il y avait un très beau témoignage dans le fanzine Les Garçons Délicats, qui est aussi disponible à la bibliothèque Les Lunes. Un témoignage de Jonas qui nous dit, page 23, nous raconte un peu son épopée. À la base, il se présentait plutôt comme bi-genre. Il nous dit « J'étais trop féminin. Il devait y avoir une part de féminité en moi. J'ai donc commencé à me genrer au neutre. » Et puis finalement, c'est les autres qui l'ont fait se sentir mal, se sentir ne pas être un vrai garçon, ne pas être légitime, parce qu'il ne rentrait pas justement dans les stéréotypes du garçon trans. Et là, il nous rappelle qu'il ne correspondait pas non plus aux stéréotypes du garçon trans, qui croyait être lesbienne pour finalement se dire hétéro. Donc tout ça est souvent étroitement aussi lié à l'orientation sexuelle. Et puis à la fin, il y a ce joli paragraphe que j'aime où il nous dit même si je sais que je peux être un garçon trans et être féminin, j'ai tendance à vouloir être le plus masculin possible pour qu'on me prenne au sérieux et qu'on valide en quelque sorte mon identité de genre. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça, mais je pense que j'ai toujours peur qu'on me mégenre en disant que ce n'est qu'une phase, que ça va passer et que je suis seulement une fille qui veut devenir un garçon pour ne pas subir de sexisme. Donc il y a aussi cette chose-là, voilà, parfois de se sentir vraiment forcé, comme tu disais aussi, de voilà, qu'on nous enlève pas ça, qu'on nous enlève pas notre identité. Et puis sur l'injonction finalement à transitionner vers la binarité pour rentrer dans les cases, il y avait un deuxième texte de ce livre que je voulais vous partager. C'est du coup le témoignage de Ellie B, qu'on retrouve à la page 30 du fanzine, et qui témoigne finalement sur son parcours de transidentité. Donc elle a commencé à justement prendre de la testo parce que tout simplement elle n'aimait pas ses organes génitaux et qu'elle avait bien envie que ça pousse. C'était quelque chose qui l'intéressait. Mais concrètement, elle a très vite vécu la violence aussi de cette décision et puis du regard des personnes extérieures. Et donc elle nous dit « Je navigue comme je peux dans ce monde obsédé par cette binarité pour construire ses lois et ses dogmes. Je m'y plie souvent, pas toujours, l'énergie de m'exposer à des agressions, micro ou hard, ou de jouer la pédagogie, et pas l'argent d'aller dans le privé, voire dans un pays étranger pour éviter les structures pathologisantes, paternalistes et patriarcales de France. » Donc voilà, en tout cas, ce sont des parcours dans ce fanzine, Les Garçons Délicats, qui sont profondément inspirants et qui nous parlent aussi justement de tous ces doutes aussi qui nous traversent sur les différentes étapes de la transition et sur les raisons qui nous poussent à la faire et sur est-ce que ça a même un sens de se poser cette question, parce que comme tu nous le disais, Alix, eh bien oui, nous vivons dans cette société qui est transphobe, qui est binaire, qui est patriarcale, qui est paternaliste, et donc forcément on vit là et pas ailleurs. On ne vit pas dans un monde parallèle et donc on n'a pas trop le luxe en vrai de choisir d'autres issues, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça?
Non, je ne sais pas trop, mais effectivement, je suis d'accord sur ce côté. Après, je pense qu'il y a des possibilités hein, et je vois autour de moi des personnes se libérer et être dans une sorte d'eux-mêmes en dehors de la société, mais pour ça il faut être encore une fois dans des bulles, dans des microcosmes. Mais à partir du moment où on se recogne à la société, au travail, à la rue, juste à la rue, même sans parler, même si on a balisé son travail, son cercle d'amis, sa famille, il reste juste la rue en fait, hein. Petite expérience, hein, juste aller chercher du pain c'est déjà une épreuve, donc je pense que c'est possible d'arriver à un équilibre où on arrive à se sentir libre dans certains endroits, mais malheureusement ce sera, voilà, j'ai aucun espoir que ce soit le cas dans la rue, comme ça, genre, ouais. Peut-être la Terre explosera avant, je l'espère. Enfin, nous, on n'explose pas la Terre. La Terre, elle est là encore pour longtemps.
C'est clair, et le vivant aussi sera préservé. Voilà, on a fait le tour de quelques-unes de ces questions, mais on le voit en effet que c'est difficile de vivre au quotidien sa transidentité, de se questionner aussi sur pour qui on fait la transition, et le moment où on va vivre dans un monde où le genre aura explosé, et tout ça aura explosé, on pourra juste être soi-même, aimer qui on veut, s'habiller comme on veut, voilà, ça, c'est pas pour demain. Donc en effet, faisons des mini-sociétés en attendant. C'est très bien comme ça. Et puis, le dernier ouvrage, c'était un ouvrage aussi pour les parents de personnes en transition aussi, qu'on voulait vous conseiller. C'est la BD si pédagogique d'Élodie Durand qui s'appelle « Transition ». Sur le parcours de cette mère, Anne Marbeau, mère d'un garçon trans. C'est vraiment à offrir à tous les parents sans modération. Vraiment, c'est rempli d'espoir, avec notamment un mot d'Alex, de ce garçon trans à la fin, qui lui dit qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que tout va bien aller, que maintenant ça va commencer à aller justement, alors que voilà, il y a eu des étapes beaucoup moins faciles. Et puis voilà, c'est vraiment un ouvrage qui explique très très bien la transition. Donc voilà, et puis il y a aussi les frics qui empruntent la voie du milieu, qui sortent des archétypes dont on parlait. Alors finalement, on va vous proposer ici des associations locales, des groupes de parole aussi, et des numéros nationaux qui existent. Aujourd'hui, je voulais surtout mettre en avant une association locale qui est le Planning Familial, qui œuvre avec notamment la branche Queer Sevenol pour justement défendre les droits des personnes LGBTQIA+. Et donc, il faut savoir qu'il y a des groupes de parole à Aubenas et ailleurs, donc sur la transidentité, pour les personnes concernées et pour l'entourage. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les actualités du planning familial Sud-Ardèche et puis à suivre les actualités aussi du groupe Ardentiel, avec comme arc-en-ciel, mais un Ard de Ardèche. Et là, vous retrouverez aussi plein d'informations pratiques sur, voilà, sur les événements qu'il y a autour de la communauté et qui nous donnent de la force. Ce qui me donne de la force aussi, c'est d'autres podcasts qui nous inspirent sur la santé mentale. Je pense à Musae, animé par Christelle Tissot. Je pense à Après la pluie de Binge Audio. Je pense à Salut, ça va, avec une psychologue clinicienne. Je pense aux mots bleus qui donnent la parole aux patientes, aux soignantes et aux aidantes. Des podcasts sur la dépression comme Spleen, comme Quelques raisons de ne pas disparaître. Ou encore, bien sûr, l'émission La Collective des copaines de Fréquence 7. Et donc finalement, je voudrais remercier pour cette première émission mon amour allié pour son aide à la réalisation de l'habillage sonore et au récoltage des données pour cette première émission. Merci aux copaines et à leur soutien, même de loin. Merci à Alix pour ta présence et pour tes mots. Merci à Sophie pour ta confiance. Merci à vous pour votre écoute. Merci Clara pour la technique. C'était Cal pour l'émission Nos santé mentale en lutte. Retrouvez-moi en compagnie d'un nouvel invité aussi fantastique sur une nouvelle thématique le 6 février à 21h, toujours sur les ondes de la merveilleuse et décalée Fréquence 7.